Alors, le cinéma horrifique est selon moi un cinéma bien trop sous-estimé. Il souffre de l'image d'un cinéma trop facile et très loin de toute subtilité. Dans ces petites chroniques, nous allons, film par film, tenter de redorer son blason. Salut à tous, chers auditrices et auditeurs, je suis Léopold Aknouch, vous écoutez C'est du sirop de maïs, et aujourd'hui, je vais vous parler d'It Follows.
C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non?
C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs. La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle, je suppose qu'il soit impuissant à nuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments en foi.
C'est du sirop de maïs.
Alors, It Follows est un film de David Robert Mitchell sorti en 2014. Le film raconte l'histoire de l'adolescente Jay qui, après un rapport sexuel avec un ami plus, se retrouve ligotée au beau milieu d'un parking par ce dernier qui lui annonce qu'il lui a refilé quelque chose d'encore pire que la ch'touille et cette chose la suivra jusqu'au bout du monde pour mettre fin à ses jours. Mais alors, pourquoi ça fait peur ? Une entité inconnue, capable de prendre l'apparence de n'importe qui, vous suivra coûte que coûte avec la ferme intention de vous tuer. Le seul moyen de s'en débarrasser, coucher avec quelqu'un, mais si ce quelqu'un meurt, elle reviendra vers vous. Ok, le concept peut avoir un goût de déjà-vu, une bande de jeunes poursuivis par une menace semblant invincible, marchant lentement mais qui les rattrapera toujours. C'est pas sans rappeler par exemple le cultissime Halloween de John Carpenter, inspiration d'ailleurs assumée du réalisateur, ou encore Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Mais le film trouve son identité autre part. Jérôme Momcilovic, critique de cinéma, écrira dans un article:
David Robert Mitchell a compris, comme ses aînés, qu'il s'agit moins pour faire un beau film d'horreur de réussir le monstre que de réussir la peur elle-même, celle d'une petite société d'adolescents condamnés à faire, blottis les uns contre les autres, leur dernier cauchemar d'enfant.
It Follows réussit la peur elle-même, mais pas la peur immédiate, brutale et instinctive que pourrait nous procurer un jumpscare, non. La peur viscérale. It Follows s'en prend à vos angoisses les plus profondes, vous plonge dans un sentiment d'insécurité permanent. Quoi que vous fassiez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, cette chose avance vers vous et vous pouvez rien y faire. Vous vous sentez impuissant comme un enfant face à un cauchemar, où la seule échappatoire serait de se mettre en boule sous la couette, en espérant se réveiller. Tout cela prend son sens lorsque l'on sait que l'idée vient d'un cauchemar récurrent que faisait le réalisateur quand il était enfant, celui d'être suivi par une présence. It Follows nous met à nu, et on se surprend à jouer malgré nous à Où est Charlie sur chaque plan, suspectant chaque silhouette en arrière-plan. Nous sommes comme les personnages, sujets à la paranoïa, conscients de l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous. Le film nous plonge dans une ambiance tout droit sortie des années 80, avec des télévisions cathodiques, des films et des voitures d'époque. Des voitures et des vêtements d'époque. Cependant, le réalisateur brouille les pistes sur la période dans laquelle se déroule l'histoire avec des éléments anachroniques semés par-ci par-là. On y retrouve une voiture récente, un téléphone portable, ainsi qu'une mystérieuse liseuse futuriste. Le réalisateur s'explique.
Je souhaitais que l'action d'It Follows se déroule à une époque indéterminée, un peu hors du temps. J'aime inventer des univers qui sont un peu en décalage avec la réalité. On a d'ailleurs conçu des décors qui combinent diverses influences issues des années 70 et 80. Le film doit se vivre avant tout comme un rêve ou un conte de fées.
Au-delà d'être bon, It Follows est beau. Il jouit d'un esthétisme particulier. Les couleurs dominantes sont froides et apportent avec eux un sentiment curieux de malaise. Par son travail visuel, le film nous transporte dans un univers lugubre et inquiétant et suscite en nous une sorte de fascination avec des plans proches de l'art pictural. C'est donc un plaisir pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. La bande originale du film a été composée par le très talentueux Disaster Piece, connu également pour son travail sur le jeu Fez. Le réalisateur étant fan du jeu, il était confiant à l'idée que le compositeur sublimerait son film, et il ne se trompait pas. Avec des morceaux faits au synthétiseur rendant hommage à ceux de Carpenter dans Halloween, elle joue un rôle crucial dans la mise en place de l'atmosphère et accompagne avec brio les scènes de tension. It Follows fut un succès critique et financier. Il coûta la modique somme de 2 millions de dollars et en rapporta 24 millions. Une belle réussite. Mais qui dit succès financier dit producteur content. Et qui dit producteur content dit potentielle suite visant à surfer sur la popularité du film original. Des bruits de couloir parlent d'une intrigue suivant Jay enquêtant sur les origines de la malédiction en retraçant l'historique de tous les partenaires sexuels des victimes. Mais même si cela peut être intéressant, à mon sens, cela desservirait l'univers établi par le réalisateur. Sa créature est effrayante car on ne sait rien d'elle, et connaître ses origines reviendrait à détruire tout le mystère qui l'accompagne à la manière d'un Prométhéeus. Et pour vous prouver que je n'ai pas exagéré la qualité de la BO de It Follows, on va en écouter un morceau composé par Disaster Piece.
«
Et on continue cette édition spéciale cinéma d'horreur avec une interview de Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach, où l'on discute tranquillou de ces films qui nous ont fait frissonner. Bonjour Mylène, tu tiens la chaîne YouTube Welcome to the Primetime Beach. Et pour commencer, est-ce que tu peux présenter ta chaîne YouTube et les formats que tu y proposes ?
Salut, et ben oui, avec plaisir. Alors, ma chaîne, c'est une chaîne toute récente que j'ai créée, comme beaucoup de monde, durant le confinement. Du coup, elle a tout juste un an. Elle a eu un an le 1er mai. Et c'est une chaîne qui décortique le cinéma de genre. Mais pas seulement, j'aime aussi décortiquer les nanars musicaux, parce que pourquoi pas. Et j'aime beaucoup aussi m'intéresser aux jeux de société qui sont adaptés d'après des licences d'horreur. Et justement, voir si l'adaptation est viable par rapport au film. Et souvent, quand je reviens sur les jeux de société, j'aime bien faire un petit encart en fait sur le film, le contexte, voilà, et faire des liens avec l'œuvre qui a inspiré le jeu.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cinéma de genre ?
Je dirais, déjà, c'est un genre qui me sert beaucoup de catharsis. C'est vraiment mon genre cinématographique préféré, parce que déjà, il est très vaste. On dit souvent que l'horreur, c'est hyper réducteur, mais pour moi, l'horreur, c'est un spectre très large. C'est-à-dire que dans les œuvres récentes, on a pu le voir, hein, l'horreur, ça peut être de l'horreur teintée de drame, de l'horreur teintée de thriller, ou aussi des romances. Hein, il y a des choses un peu improbables qui sortent. Il y a notamment, là, je pense au film Relique, qui est un film d'horreur, mais qui est aussi un drame familial. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est que même si on va étiqueter un film comme un film d'horreur, ça peut être quelque chose de beaucoup plus vaste. Et il y a aussi quelque chose de très primitif dans l'horreur. Ça touche à nos peurs primaires, mais pas que ça, en fait. Parce que c'est un genre qui est censé nous mettre un peu mal à l'aise, si j'ose dire. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression que ça touche à mes peurs et mes ressentis très primitifs, et j'aime beaucoup ça. Et aussi, il y a une partie très ludique dans l'horreur, notamment dans le slasher, qui est l'un de mes genres favoris. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup faire des vidéos sur les slashers sur ma chaîne. Et par exemple, le slasher, je trouve que c'est un genre très très ludique, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans l'enquête, on va essayer de découvrir qui est le tueur, surtout quand il y a un voodoo nit. Et voilà, il y a un côté très très participatif dans l'horreur que j'aime beaucoup.
Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, mais d'où t'es venue l'envie de partager ta passion ?
Ça a commencé, je dirais, vers 2016-2017, parce que j'avais déjà un blog. J'éditais pendant longtemps, j'avais déjà commencé d'écrire pour des blogs qui n'étaient pas des blogs à moi. Mais voilà, je ne me sentais pas encore de lancer mon propre format. Et j'aime beaucoup partager ma passion, je suis quelqu'un de très pédagogue, j'adore faire voir des films à mes amis, leur expliquer le contexte. Voilà, j'adore partager ma passion. Et j'ai commencé avec le format blog, qui était le format qui se prêtait plus à ce que je me sentais de faire sur le moment. Et donc avec mon blog qui a le même nom que ma chaîne, donc Welcome to Primetime Beach, j'ai commencé par faire en fait des reviews de saga, donc avec le contexte, avec par exemple Massacre à la tronçonneuse et son inspiration de Ed Gein, tout ça. Et ensuite, j'avais envie de passer au format vidéo, mais je ne me sentais pas de le faire. Et puis, finalement, j'ai passé le cap grâce à des amis qui étaient eux-mêmes vidéastes et qui m'ont dit « Allez, il s'agit de se lancer. » Parce que même si j'aime beaucoup l'écriture, et je trouve que c'est un très bon moyen de partager, de faire revivre l'œuvre, de la faire connaître, de l'analyser, de l'étudier, le format vidéo, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'analyser les images, chose que je ne pouvais pas autant faire dans le format écrit. Et donc, du coup, j'ai décidé de partager ma curiosité et toutes ces choses que j'aime décortiquer dans les œuvres, que ce soit autant pour le fouinage dans les recherches, autant par des analyses personnelles. Je me suis dit, autant le partager et pas le garder que pour moi. Et ce que je faisais avec mes amis et mes proches, le faire sur un rayon plus large avec ma chaîne.
Tu viens de nous parler aussi un petit peu plus tôt de musique, en parlant de nanars musicaux, il me semble. Je voulais savoir quels sont tes médias autres que le film d'horreur, centré du coup sur l'horreur, genre BD et livres. Quels sont justement tes médias préférés ?
Je pense, et ça se ressent dans ma chaîne, parce que j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, je pense que c'est les vinyles. Je suis très fan de vinyles, j'écoute beaucoup de musique, j'ai commencé à avoir des vinyles au collège. C'était une passion qui a commencé très tôt, parce que même sans pouvoir les écouter, j'en ai eu par le biais de mes parents, et donc j'ai commencé à les collectionner. Et du coup, mes deux passions se rejoignent parce que je suis à la fois fan de musique et fan de BO. Donc, du coup, ben, ma passion pour le cinéma se rejoint avec, avec ma passion pour la musique. Et voilà, je suis une grosse collectionneuse de vinyles, de pièces un peu rares. Justement, les nanars musicaux que j'ai analysés sur ma chaîne, j'ai craqué pour les vinyles, même si c'est, voilà... Par exemple, j'ai fait une analyse de parking, même si la BO, elle est compliquée. J'avais envie de l'avoir pour avoir un peu cette pièce improbable dans ma collection. Et sinon, après, je dirais que j'aime beaucoup les livres. Je suis une grosse lectrice, j'ai commencé à lire très tôt. Et tout de suite de l'horreur, j'ai commencé par lire des chairs de poule, toute cette littérature horrifique pour enfants. Et ensuite, je suis très vite passée à Stephen King et ça ne m'a plus jamais quittée.
Et en parlant du coup de musique, est-ce que t'as un exemple, par exemple, de bande originale qui t'a profondément marqué dans le cinéma d'horreur ?
Dans le cinéma d'horreur, là comme ça de tête, je dirais peut-être Candyman, qui est une BO de Philip Glass, qui est très loin en fait des archétypes des BO d'horreur, par exemple comme on peut voir avec Carpenter, ou des choses très très métal, ou du style de Goblins, que j'aime beaucoup, avec donc les BO italiennes de Suspiria ou encore de Profondo Rosso. Là, Candyman, c'est une musique très onirique et qui accompagne vraiment très bien l'œuvre. Et c'est vrai que quand je vois le film, c'est vraiment une BO qui me donne des frissons. Et je trouve que vraiment, limite, elle fait rentrer en transe cette BO et je la trouve sublime.
D'accord, mais depuis tout à l'heure, on parle de nanars musicaux. Du coup, je suppose que tu fais référence justement un petit peu, tu fais la passerelle avec les nanars en film, mais au niveau de la musique. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un nanar musical ?
Alors, déjà, un nanar de base, c'est un film qui n'avait pas du tout à vocation d'être mauvais, hein, ou d'être kitsch ou d'être cheap, et qui, par la force des choses, que ce soit la production ou alors le manque de budget ou alors le résultat final, va devenir une œuvre tellement, je ne sais pas comment on pourrait dire, tellement ratée, tellement mauvaise, que ça va faire un espèce de pot pourri raté, mais qui va limite devenir charmant en fait. Parce que voilà, il faut faire la différence entre le navet et le nanar. C'est-à-dire qu'un navet, souvent, ça a déjà vocation à être mauvais. C'est un petit budget, c'est des films qui sont juste mauvais, pas regardables, pas appréciables. Un nanar, on va avoir tendance, moi, c'est mon avis très personnel, à lui trouver du charme alors qu'il est mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes vidéos, je me suis arrêtée, donc mon premier nanar musical, c'était Parking, qui est une œuvre donc de Jacques Demy que j'aime énormément. Et là, pour le coup, Jacques Demy, à aucun moment, il a voulu rater son œuvre. C'était vraiment une œuvre qu'il a voulu faire avec le plus grand des sérieux. Et la production a fait qu'il y a eu pas mal de couacs, le résultat final ne fonctionnait pas du tout. Les chansons étaient chantées par Francis Huster, qui n'est pas un chanteur. Donc ça se ressent durant tout le film et ça fait mal, clairement ça fait mal. Mais un nanar, je pense que c'est une œuvre que lorsque tu la visionnes trois fois, tu finis par l'apprécier. C'est une œuvre qui se regarde entre amis. Et donc le nanar musical, on rajoute juste un peu de musique kitsch et ça fait le taf. Donc là par exemple, voilà, il y a Parking, mais il y a aussi Rock Alien, qui est ma dernière vidéo en nanar musical, qui là a une BO beaucoup plus écoutable et beaucoup plus sympathique, avec notamment When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson et Piazzadora. Et là, pour le coup, c'est un très bon exemple. C'est un film qui a été fait pour mettre en avant son actrice principale. Et ça n'avait pas du tout vocation d'être un échec commercial, mais ça n'a pas marché. Et finalement, c'est devenu un nanar improbable qui ressemble à un mix de clip MTV des années 80, quoi.
Ok, et le cinéma d'horreur, il souffre de pas mal de préjugés, je trouve, en ce moment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du cinéma d'horreur actuel ?
Moi, je pense que là, on arrive, il y a beaucoup de films qui arrivent vraiment à renouveler le genre, notamment avec Ari Aster ou encore avec... les œuvres comme des séries, comme Haunting of Hill House, qui sont des œuvres qui vraiment réussissent à réinventer tout en s'inspirant voilà, de l'horreur passée. C'est vrai que l'horreur a mauvaise réputation, mais je pense qu'elle l'a toujours eue, en fait, parce qu'on a tendance à cataloguer ça comme un genre trop facile. Même moi, je vois avec mon entourage, souvent on me dit ah, « bah, ça fait peur, j'ai pas envie de regarder ». Et du coup, c'est vrai que la peur fait que beaucoup de gens ont des préjugés sur l'horreur en général et s'arrêtent là, ils ne veulent pas donner la chance aux œuvres qui sont bien plus complexes que ça. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer parce qu'on a un peu de l'horreur intellectuelle qui a commencé à se mettre en place, alors avec un terme que moi, j'aime pas du tout, l'élévité d'horreur, qui du coup redonne un petit peu un nouveau souffle à l'horreur. Moi, c'est vrai que c'est un thème que j'emploie pas du tout parce que... Ouais, c'est un film que j'apprécie pas. Mais voilà, avec les œuvres de Ari Aster, par exemple, c'est vrai que moi, ça faisait un moment que je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur sur une œuvre contemporaine. Et là, quand je suis rentrée de ma séance de ciné, je me suis pris littéralement une claque. Et je me suis dit que ce soit en termes de scénario, de jeu d'acteur, de BO, d'esthétisme, là, on tenait quelque chose et que vraiment, voilà, l'horreur avait encore des choses à dire. Et on a notamment aussi des choses très intéressantes qui arrivent, puisqu'il y a une nouvelle génération de réalisatrices d'horreur qui arrivent avec des propositions qui sont très très bonnes. Voilà, encore une fois, Relique. Mais voilà, on a aussi des propositions comme Lucky, qui est un slasher qui, même s'il n'est pas parfait, nous donne envie de voir ce que fera la réalisatrice par la suite. Et voilà, il y a plein de propositions comme ça qui tentent de créer un nouvel esthétisme de l'horreur. Et moi, j'ai vraiment foi en cette nouvelle proposition contemporaine de l'horreur. J'ai beaucoup d'espoir.
D'accord. Mais selon toi, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ce genre à l'heure actuelle ?
Je dirais que ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment peut-être l'horreur trop facile. C'est vraiment l'horreur qui répète les mêmes clichés, les mêmes jumpscares, les mêmes tropes qui sont répétées inlassablement et qui n'ont pas forcément d'intérêt. Après, énervé, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que, par exemple, je me retrouve moins dans l'horreur mainstream. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que, quelque part, l'horreur mainstream fait aussi un peu de mal à l'horreur en général, parce que, du coup, c'est cette horreur très mainstream qui va, en fait, diffuser une fausse image de l'horreur, avec du coup des peurs très faciles, un scénario pas forcément toujours abouti, et de l'horreur qui reste de l'horreur pure, en fait, très pop-corn. Alors moi, c'est de l'horreur que j'apprécie parfois, hein, mais c'est vrai que du coup, cette horreur mainstream, elle empêche quelque part aux œuvres plus intimes de voir le jour ou d'être mieux mises en avant, on va dire.
Alors, en plus, tu parlais d'Ari Aster tout à l'heure avec notamment, enfin, du coup, Hérédité et Midsommar. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord parce que Hérédité, je me souviens pas qu'il y ait énormément, même si, enfin, je me souviens qu'il y ait énormément de jumpscare en plus. Et pourtant, moi, c'est un film qui m'a bouleversé tellement il m'a terrifié en fait. C'est justement dans l'ambiance et c'est le fait de réussir à terrifier les gens intelligemment sans avoir à les surprendre en fait et de du coup créer une peur beaucoup plus viscérale en fait. C'est ce qu'a réussi à faire Ari Aster et moi aussi ça m'a redonné espoir. Dans ce genre, en fait.
C'est ça, c'est totalement ça. D'ailleurs, il y avait un site qui avait répertorié, je crois, le peu de jumpscares de Hérédité, et c'était vraiment minime, quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien, enfin, c'est très bizarre, ça fait très mal de dire ça, mais ça fait du bien d'avoir peur. Moi, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, et du coup, même si, voilà, je pense que l'horreur, il en faut pour tout le monde, et du coup, c'est très bien aussi qu'il y ait des œuvres plus, on va dire, pas plus clichés, mais plus mainstream. Mais c'est vrai que moi, c'était de l'horreur que je regardais un peu, voilà, je regarde les films, je les oublie, ça me fait pas peur, j'ai l'habitude, je sais ce qui va se passer, je commence le film au bout de 5 minutes, ça, tu sais à peu près le dénouement. Donc, c'est vrai que c'est une horreur que je consomme un peu moins.
D'accord, et du coup on va te poser maintenant des questions un petit peu plus personnelles sur ton parcours de l'horreur. Est-ce que tu peux nous raconter la toute première fois où tu as posé tes yeux sur un film d'horreur ?
Oui, alors là je ne me souviens plus exactement, j'étais quand même assez jeune et en fait Mes parents avaient une énorme collection de VHS et bon bah comme pour beaucoup je fantasmais en fait sur les jaquettes, j'avais envie de découvrir tous ces films, je me faisais même des cauchemars juste avec les jaquettes, notamment celle du téléfilm de ça. Et je pense qu'à force de saouler mes parents, ma mère a cédé et elle m'a dit bon bah pas de soucis, tu peux regarder un film d'horreur, tu le choisis. Et elle m'a laissé le choix entre Ouija et entre La Mouche. Et en fait, j'avais choisi Ouija. Et puis finalement, une fois que la cassette a commencé, j'ai un peu paniqué. Et finalement, j'ai choisi La Mouche, donc de Cronenberg. Et voilà, c'était un super début pour commencer l'horreur. Et je me souviens de ce visionnage. Je me souviens des scènes gore où je m'étais dit, ah, c'est vraiment, voilà. Je suis pas sûre que j'ai eu peur. Mais voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup d'attachement à La Mouche parce que c'est mon premier film d'horreur.
C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non?
C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs. La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle. Je suppose qu'il soit impuissant à nuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments en foi.
C'est du sirop de maïs.